Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le mag de la rédaction dans lequel nous recevons aujourd'hui dans nos studios André Leroy, berger d'alpage. Monsieur Leroy, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons aujourd'hui parler de votre ouvrage éponyme qui est sorti en septembre 2020 dans les collections Hors les Drails aux éditions Carder. C'est un ouvrage que vous avez écrit avec Étienne Landé et Jean-Pierre Desfontaines qui s'appelle donc André Leroy, berger d'alpage. On va revenir un petit peu plus loin dans l'émission sur l'histoire de cet ouvrage et sur son contenu. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ?
Ben, comme beaucoup de bergers maintenant, je ne suis pas de milieu rural, mais je suis un urbain. Et donc, j'étais en banlieue parisienne avec mes parents jusque vers l'âge de 19-20 ans. Mais j'étais toujours attiré par la nature, entre guillemets. Après, j'ai rencontré la montagne en cours de randonnée. Et depuis tout petit, j'aimais bien les animaux, et en particulier les brebis. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais toujours fasciné par les brebis. Et je gardais des photos, je découpais de photos de brebis quand j'en trouvais dans des magazines, et voilà. Et donc, j'ai laissé les... Un jour, je suis peu que j'étais en randonnée dans les Hautes-Alpes. J'ai dit, oh ben non, je rentre plus en banlieue parisienne, je reste par ici. Et j'ai commencé à chercher des petits boulots auprès des paysans pour aider à ramasser le foin, etc. Et j'ai eu l'occasion, mais dans mon idée, c'était de rencontrer des éleveurs de brebis. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un éleveur qui était bien content d'avoir de l'aide pour quelque temps. Et voilà, je suis resté avec lui, un petit éleveur de Champoléon. Et finalement, j'ai passé une année complète avec lui. J'ai fait le cycle de l'année, quoi. À la fois le travail en bergerie, l'agnelage, après le début du pâturage autour des villages, et la montée en montagne. Les troupeaux, à ce moment-là, par chez nous, là, à Champoléon, ils étaient en liberté en montagne. Ils n'étaient pas gardés, mais on allait les voir régulièrement pour leur porter du sel et voir si tout se passait bien. Donc j'ai fait un cycle complet, une année. Et j'étais heureux parce que c'est ce que je cherchais.
Et donc on était à peu près au milieu des années 70, si je ne me trompe pas, vous êtes berger depuis 1974.
Oui, oui.
Comment vous décrirez le métier de berger ?
Mais pour moi, c'est à la fois le contact avec le monde animal, avec les brebis en particulier, et... la rencontre avec un milieu naturel qui n'est pas artificialisé d'aucune façon, puisque voilà, c'est un milieu naturel qu'on doit utiliser comme il est.
Alors on va maintenant passer à votre ouvrage donc qui s'appelle André Leroy, berger d'alpage. Je le reprécise pour nos auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route. Alors je vous propose, Monsieur Leroy, qu'on commence par le commencement. Cet ouvrage, il est né d'une rencontre entre vous-même et Jean-Pierre Desfontaines, qui à l'époque de votre rencontre donc dirigeait une unité de recherche au sein de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette rencontre?
En fait, Jean-Pierre Desfontaines, est-ce que c'est le hasard, si on peut parler de hasard dans la vie? Jean-Pierre Desfontaines, il habitait pas très loin de chez mes parents, en région parisienne. Et en même temps, il avait une maison qu'avait achetée son père à Champoléon, où il y venait fréquemment. Donc on avait ces deux points de rencontre en région parisienne ou à Champoléon. Et donc on est venu à parler que je gardais en montagne et il a voulu en savoir plus.
Et donc, de là se lie votre amitié, finalement, qui est devenue une amitié avec le temps. Et en fait, il commence, alors je ne sais plus si c'est vous ou lui qui proposez, mais d'observer vos pratiques de berger pour compiler en fait des notes et des informations sur ce métier. Et ce qui a donné lieu à un rapport de recherche qui est sorti en 1988, c'est bien ça ?
Oui.
Et comment on passe, en fait, d'un rapport de recherche assez confidentiel fait au sein de l'INRA à cet ouvrage qui est sorti il y a un peu plus d'un an et qui est un ouvrage grand public que tout le monde peut trouver dans les librairies ? Comment ça s'est fait ?
Oui, en fait, à cette époque-là, l'INRA s'intéressait plus à l'élevage industriel. Et ce qui se passait vraiment en montagne, personne ne savait trop. Qu'est-ce que faisait vraiment le berger là-haut ? On a ces images de transhumance, un peu folkloriques, des brebis avec les grosses sonnailles, avec les pompons multicolores, avec les ânes qui montent en montagne, qui traversent les villages et tout ça. On avait les images de redescente, des fois sous la neige, sous la pluie, les chiens qui courent à droite, à gauche. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment sur la montagne ? Il y avait un blanc, une espèce de trou blanc. Et c'était intéressant d'aller voir un peu là-haut ce qui se passait. Maintenant, pourquoi le rééditer ? Je pense que il y a beaucoup de gens qui s'interrogent maintenant sur l'élevage industriel. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont envie de faire le berger. Ça semble un peu un mythe ou un rêve, quelque chose de magnifique. Et donc, je pense que c'est pas mal de montrer que, à la fois, c'est pas que du rêve, hein, le métier de berger. Il y a toutes les contraintes de la vie en montagne, toutes les contraintes de suivre les animaux. Mais qu'en même temps, c'est un travail profondément respectueux de l'environnement. Contrairement à l'élevage industriel. Pour ça que... Et Étienne Landais, un des participants de l'INRA, qui travaillait aux côtés de Jean-Pierre Desfontaines, ça lui tenait à cœur de le rééditer maintenant. Il y pensait depuis nombreuses années, et ça s'est fait. Il a demandé si j'étais d'accord, et on s'y est mis, quoi, à l'ouvrage. Et il a retrouvé des photos de... C'est Daniel Arpaillange, je crois.
Mmh, tout à fait. Joël Arpaillange.
Oui, de Joël Arpaillange, qui était venu, c'est pas à l'époque, dans les années 80, là, qui était venu sur la montagne, qui avait pris des photos, qui n'avaient jamais été utilisées ni produites, et il les a rajoutées au livre.
Donc, vous considérez que le métier de berger, aujourd'hui, c'est un métier qui est idéalisé et qu'il s'agit aussi de remettre un petit peu ce que ça recouvre réellement, alors avec ses bons côtés, mais aussi avec ses contraintes et des côtés qui plaisent, qui peuvent moins plaire.
Oui, oui, c'est... À la fois, il y a... C'est un beau métier parce que... Maintenant, avec toute la mode végane et toutes les critiques, le travail de l'association L214 qui dénonce les abattoirs et les conditions de vie infernales pour les animaux, je m'aperçois de plus en plus que ce travail est vraiment respectueux des bêtes et en même temps respectueux de la montagne. Et élever des bêtes en montagne, ça permet de produire des protéines utilisables par les humains dans des milieux qui sont pas cultivables, qui produiraient rien du tout. Voilà.
Alors, l'élevage industriel, on va y revenir plus loin dans l'émission, mais donc je vous propose qu'on revienne au contenu du livre. Alors, pour nos auditeurs qui auraient déjà leur curiosité éveillée, c'est un ouvrage qui n'est pas linéaire dans le sens où il y a différentes parties qui vont pas forcément se suivre comme dans un roman, si je puis dire. On retrouve des dialogues, on retrouve aussi des schémas qui nous aident beaucoup dans la lecture du livre. Pourquoi vous avez choisi de faire ces schémas-là et pourquoi vous avez choisi cet ouvrage qui finalement est assez facile à prendre en main et assez pratique?
Mais je pense que le premier travail du berger, c'est d'ouvrir les yeux. Et il est toujours en train de regarder, c'est voir. Donc, plutôt que des grands discours, il y a un petit schéma du troupeau ou un schéma d'une couche ou d'une disposition du troupeau. Au lieu de s'expliquer par des longs discours, un petit schéma, ça montre vraiment bien ce qu'il en est.
Alors, vous avez justement parlé, du fait que ça avait été mis à jour et que cet ouvrage il avait été actualisé. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, il s'agit des diagnostics pastoraux. Vous me disiez, quand on a préparé cette émission, que à l'origine, les diagnostics pastoraux n'étaient pas du tout faits dans les montagnes, et que c'est qu'à la suite de vos travaux, et à la suite notamment du rapport de recherche et de cet ouvrage, que ces diagnostics ont été généralisés. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme, sur ce que c'est un diagnostic pastoral?
Oui, ben c'est un regard qu'on porte sur la montagne dans son ensemble. C'est-à-dire, on ne regarde pas uniquement le point de vue agricole ou élevage, mais on regarde l'ensemble des composantes de la montagne, que ça soit le relief, la végétation, la faune qui y habite, les chamois, les bouquetins, les lagopèdes, etc. On essaye d'avoir une vision globale d'une montagne, et de voir comment, quel est l'impact du troupeau dans ce milieu. Voilà, est-ce qu'il peut y avoir des impacts négatifs? Par exemple, quand on parle de surpâturage, qui menace une ressource en herbe, est-ce qu'il peut avoir un impact positif? Voilà. Donc, on essaye de voir la montagne sous tous ses aspects, et quel est l'impact de notre activité sur ce milieu naturel.
Et aujourd'hui, ces diagnostics pastoraux, qui les réalise?
C'est réalisé soit par des techniciens de la Chambre d'agriculture, soit par les agents du parc nationaux. D'ailleurs, je crois qu'ils travaillent pas mal ensemble. Et à partir de là, on peut donner des préconisations aux bergers. On peut constater, par exemple, qu'une zone n'est pas assez pâturée. Alors, pourquoi cette zone n'est pas assez pâturée? Ça peut être parce qu'elle est très loin de la cabane, très loin d'un endroit où on peut faire dormir les bêtes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut réaménager une cabane? Est-ce qu'il faut mettre un point d'eau plus près? Voilà. Donc, c'est ce travail-là, d'essayer d'avoir une utilisation optimale pour le milieu, pour le troupeau, sur une montagne donnée.
Et d'ailleurs, il y a la question justement de l'utilisation de l'espace, et c'est ce que vous venez de dire qui est assez important. Et notamment dans votre livre, il vous parlait de trois termes qui reviennent, les secteurs, les quartiers, les circuits. Alors je vais relire un petit peu la citation quand vous en parlez dans la partie généralité et définition, vous dites « Pour décrire l'utilisation d'une montagne par un troupeau, j'utilise trois termes, secteur, quartier et circuit. » Alors, on voit bien que c'est des termes qui permettent un petit peu de découper l'espace dans la montagne qui va être utilisé par le troupeau. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce que recouvrent ces trois termes? Qu'est-ce qu'un secteur, un quartier et un circuit?
Oui, ça a été la première question que m'avait laissée Jean-Pierre Desfontaines. Parce qu'il était monté, il ne m'avait pas trouvé à la cabane. Il m'avait laissé un mot, « Comment tu découperais la montagne ?» Alors, généralement, il y a la grande division, c'est celle de quartier. Donc, en général, il y a un quartier pour le printemps. Le printemps, c'est le début de la saison en montagne. C'est tout le bas de la montagne. Et le quartier du mois d'août, qui est au-dessus, les zones les plus hautes, qui sont déneigées les plus tard. Voilà, donc il y avait cette grande division-là qui correspond souvent à deux cabanes, une cabane de printemps et une cabane d'altitude. Mais pour expliquer le fonctionnement du troupeau en montagne, c'est un peu grossier comme découpage. D'un autre côté, les techniciens agricoles, ils se penchaient sur la végétation et les phytoécologues, ils sortaient des cartes de végétation qui sont une multitude de petites patates qui recouvre la diversité de la végétation en montagne, suivant les zones de rochers, suivant les cuvettes, etc. Et pour la conduite du troupeau, ça ne veut pas signifier grand-chose non plus. Et moi, en tant que berger, je vois la montagne en fonction du comportement du troupeau. C'est-à-dire, dans un endroit, il n'y aura pas moyen d'arrêter les brebis. Elles vont faire que filer, se déplacer en longue file de brebis, comme je montre sur les dessins. Et pourquoi? Parce que c'est une pente raide, parce que la végétation n'est pas appétante, parce que les brebis de derrière ne voient pas les brebis de devant et cherchent à le rejoindre. Donc ça se déplace continuellement. Il y a d'autres secteurs, où, au contraire, où le troupeau va s'installer. Il va s'arrêter, les brebis vont s'écarter et se mettre à manger sans bouger. Donc, pourquoi ça? Pourquoi cet endroit-là? Est-ce que ça correspond à l'herbe? Est-ce que ça correspond à la morphologie du terrain? Voilà, donc c'est ça le secteur, c'est voir la montagne en fonction de l'utilisation par le troupeau.
Et ce que vous expliquez me fait... Pensez notamment au... Alors du coup, c'est la deuxième... Alors on pourra appeler ça la deuxième et la troisième de couverture. Mais dans votre ouvrage, il y a justement ce dessin qui s'appelle « Un troupeau de 1000 brebis traverse un ravin ». C'est un dessin que vous avez fait, Monsieur Leroy, où justement vous schématisez le passage du ravin par un troupeau de brebis et où on voit justement les secteurs d'herbe où le troupeau est plus étalé et le passage du ravin avec le névé où on voit très bien que le troupeau devient une file, une file de brebis. Quand on passe à un ravin comme celui-ci, il faut avoir une confiance absolue en son troupeau pour être sûr que les brebis vont suivre le chemin et ne pas tomber dans le précipice.
Oui, ben ça c'est... Les bêtes, elles sont habiles, elles connaissent. Elles sont pas imprudentes. C'est peut-être les manœuvres d'un berger inexpérimenté qui pourrait faire des bêtises ou à faire arriver des accidents. Mais... Le troupeau ne risque rien, il connaît sa montagne, il connaît le danger, il connaît les bons coins, les mauvais coins, ce qu'il faut faire attention.
On va maintenant passer au métier de berger en lui-même. Depuis que vous avez commencé à garder les bêtes, donc je rappelle que c'était au milieu des années 70, quelles sont les évolutions du métier de berger que vous avez constatées?
En montagne... Déjà, il y a l'utilisation des parcs électriques. C'est-à-dire qu'avant, au printemps et à l'automne, les éleveurs, avec un berger ou eux-mêmes, ils gardaient leurs brebis. Il est dans les prés, autour du village. Maintenant, elles sont systématiquement mises au parc électrique. C'est-à-dire que l'éleveur ne fait que les mener jusqu'au parc, qui change chaque jour. Donc, il n'a plus le contact... de toute une journée passée auprès de ses brebis. Ça, c'est un gros changement. Et les brebis, quelque part, ne sont plus gardées. Les brebis qui arrivent en montagne ne sont plus gardées. Elles connaissent à peine les chiens et elles n'ont plus l'habitude de ce contact avec l'humain en permanence. Le deuxième changement que je trouve, c'est justement à la suite de notre travail, c'est la prise en compte de l'environnement dans la montagne, qui est accompagner toutes les aides et mesures agro-environnementales. Et un troisième changement, ben, c'est l'arrivée du loup, dont on parle beaucoup, et qui a modifié notre façon de conduire le troupeau, parce qu'il faut toujours en tenir compte.
Et vous, par exemple, quel regard vous portez sur ces évolutions? Par exemple, si on reprend le parc électrique, pour vous, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a permis? Ou est-ce que c'est une évolution que vous voyez avec une perception plus négative?
Ben c'est comme beaucoup de choses. Hein. Suivant comment il est utilisé, il peut être très utile. Moi, je vois en montagne, ça nous permet de parquer les brebis pour les rapprocher des zones de pâturage. Ça permet maintenant, avec le loup, de les protéger du loup. Ça permet, par exemple, si on veut éviter qu'elles aillent à un endroit, de faire une limite plus facile, sans devoir déranger les bêtes avec le chien. Ça peut avoir des avantages si c'est bien utilisé. En même temps, ça fait un travail supplémentaire pour le berger, qui doit traîner, souvent c'est sur le dos, sur une clé de portage, 4 ou 5 filets. Plus après la batterie, ça fait plusieurs voyages, pour pouvoir l'utiliser en montagne.
Et pour bien comprendre les changements que ça a impliqué dans le métier de berger, vous me disiez à l'instant qu'avec le parc électrique, vous n'étiez plus tenu de rester auprès de vos bêtes toute la journée. Alors moi, avec mes yeux de citadine, forcément, je me dis que rester aux côtés d'un troupeau de brebis toute une journée, ça doit être quand même assez ennuyeux. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Comment on gère l'ennui quand on est berger ?
On s'ennuie jamais. Il y a toujours une espèce d'attention constante à ce que fait ces bêtes, à ce que font ces bêtes. Et puis après, il y a l'attention à l'herbe, au comportement du troupeau, à ce qu'elles font. Et puis il y a toute la vie de la montagne qui nous entoure. Il y a toujours quelque chose à regarder et à remarquer. On est tout le temps attentif un peu à tout ce qui se passe sur la montagne.
Et pour revenir donc sur les évolutions du métier de berger dont vous nous parliez à l'instant, il y a la question du loup que vous avez cité et dont il est difficile d'échapper lorsqu'on parle d'élevage et d'alpage aujourd'hui. Pour vous, est-ce que le loup met en péril l'élevage ?
Je ne pense pas que c'est le loup qui va mettre en péril l'élevage. Parce que dès que les humains ont commencé à domestiquer des animaux, des herbivores. Ils ont été en concurrence avec les animaux prédateurs. Et partout, toujours, ils ont eu affaire aux loups, aux ours, aux lynx, aux pumas, aux panthères des neiges, etc. Donc c'était plutôt un peu une période exceptionnelle qu'on a connue pendant une centaine d'années, où il n'y avait plus aucun prédateur. C'était particulier dans l'histoire du pastoralisme. Et donc maintenant, c'est une contrainte supplémentaire, une grosse contrainte, auquel il faut toujours penser. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui mette en péril le pastoralisme. Je me demande si ce n'est pas le réchauffement climatique et tous les changements du climat qui risque de mettre en grosse difficulté l'élevage, sans parler après du commerce international. Mais ça, c'est un autre problème que moi, je ne connais pas trop bien.
Est-ce que, justement, on peut citer quelques menaces, quelques situations auxquelles vous avez été confronté du fait du réchauffement climatique et qui, selon vous, pourraient mettre en péril le métier de berger ?
Mais je pense pas cette année qui a été assez pluvieuse, mais les 2 années précédentes qui ont été chaudes et secs. Et plusieurs fois, il a fallu monter des citernes d'eau pour pouvoir abreuver les brebis. Donc le jour où il y aura de moins en moins d'eau, ça risque de poser un gros, gros problème. Pas seulement pour abreuver les brebis, mais ça a des conséquences sur la végétation. C'est une végétation qui est habituée à avoir de la neige. Et je vois ces deux dernières années, les endroits où l'herbe elle pousse sur des zones de rochers, où il n'y a pas beaucoup de terre, elles ont vraiment souffert de la sécheresse. Et elles ne s'en sont pas encore remises. Elles essayent un peu de reprendre le dessus, mais des endroits, on voit encore l'herbe qui est grillée.
Notamment, le parc des Écrins a mis en place des alpages sentinelles pour justement observer les conséquences du réchauffement climatique sur la végétation et l'impact de ces évolutions sur la conduite des troupeaux. Est-ce que vous, les alpages sentinelles, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Ben moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est dans le prolongement des diagnostics d'alpage, voir... Le changement climatique, ça fait qu'il y a il y a toujours eu des variations. Il y a eu des étés secs, des étés humides, etc. Mais maintenant, c'est qu'ils sont beaucoup plus conséquents. Si on fait, faudrait faire un schéma. Soit c'est des petites vagues, soit c'est des grands pics hauts et bas. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter. Et c'est important de les étudier. Et si on veut que l'élevage y continue en montagne et dans contrairement à l'élevage industriel où on peut faire venir du soja d'Amérique latine, nous, quand il n'y a pas d'herbe sur la montagne, ben, il n'y a pas d'herbe. Et on est obligé de redescendre les brebis.
Il nous reste moins de 2 minutes avant la fin de ce mag de la rédaction. Parmi les évolutions du métier de berger, il y en a une autre que j'aimerais aborder avec vous, monsieur Leroy, c'est la professionnalisation du métier, notamment parce que vous êtes, les bétiers sont en première ligne des observations du réchauffement climatique en montagne et que le métier a été revalorisé. Pour vous, c'est quelque chose de positif, cette professionnalisation et cette revalorisation ?
Oui, oui, et puis il y a de plus en plus des formations qui tiennent bien en compte tout cet aspect environnemental, de respect du milieu, de respect de la nature, du respect des bêtes aussi, de ce lien profond qu'on peut avoir avec les bêtes. Et du coup, le berger prend de l'importance parce qu'il a un rôle, on peut dire, écologique à jouer et un rôle de protection de son troupeau vis-à-vis des prédateurs. Donc le métier de berger est valorisé, il a un statut et des conventions collectives qui se mettent en place de plus en plus précises, et c'est important.
Vous me disiez en début d'interview que c'était un métier qui attirait de plus en plus de jeunes. Est-ce que vous sentez, vous, que le métier de berger retrouve des lettres de noblesse vis-à-vis de la jeunesse et qu'il y a de plus en plus de candidats ?
Oui, oui, il y a beaucoup de candidats et je crois qu'à l'école du Merle, ils sont chaque année obligés d'en refuser parce que les places, elles sont limitées. Et c'est vrai que c'est un peu un rêve. On retrouve notre véritable place d'être humain. C'est-à-dire, on ne détruit pas d'un côté, on peut tout détruire et artificialiser. D'un autre côté, on peut laisser en nature sauvage, ne pas intervenir. Et le berger, il a cette chance d'essayer de mener une activité humaine dans le profond respect du milieu où il exerce son activité.
Et c'est sur ces mots que nous allons clore ce magazine de la rédaction qui a accueilli aujourd'hui dans nos studios de RAM 05 André Leroy, berger d'alpage, qui est venu nous présenter son livre éponyme sorti en septembre 2020, je le rappelle, dans la collection Orles et Drailles des éditions Carder. Monsieur Leroy, merci d'être venu dans nos studios.